Ce matin, dans le studio de Radio Royan-Vercors, j'ai le plaisir de recevoir Gérard Blanc et Odile Noyetas pour la sortie de ce livre « Enfants du Vercors, confidence, enfants au singulier » puisqu'il s'agit de vous, Gérard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on va faire le tour, on va prendre le temps de parler de ce travail parce que il s'agit de la mémoire patrimoniale du Royan et du Vercors plutôt. Comment vous est venue l'idée de faire un livre sur votre histoire? Quelle est l'histoire de ce livre?
Alors, au départ, j'ai fait ce livre pour ma famille uniquement. Et puis, on l'a laissé donc à lire à des amis qui faisaient partie du patrimoine du Vercors. Et ils m'ont dit, mais c'est un livre qu'il faudrait publier parce que c'est la mémoire du Vercors, des enfants d'après-guerre, c'est formidable. Quoi.
Vous, Gérard, vous êtes né en 1949.
Oui.
Juste après la guerre.
Oui.
Dans une ferme, près de la chapelle en Vercors.
Oui, avec beaucoup de neige quand je suis né, parce qu'il est tombé 80 cm de neige. Et comme on était dans un hameau assez loin de la chapelle en Vercors, le docteur n'a pas eu le temps de venir pour accoucher ma maman. Donc, c'est mon papa qui m'a accouché, voilà.
Ça commence comme ça, et d'ailleurs, oui. C'est la première phrase du quatrième de couverture, avec cette tempête de neige qui bloque ce petit hameau des Rochats, ferme isolée du Vercors. Ça commence comme ça, votre histoire.
C'est ça, oui.
Et donc, la petite histoire de Gérard devient aussi une histoire patrimoniale pour tout un chacun, pour avoir les souvenirs de comment on vivait aussi à cette époque-là, là-bas. Et donc, ce premier livre, que vous faites lire à d'abord votre famille et puis à quelques amis, il faisait 450 pages.
Oui, c'était un gros pavé. Et puis bon, je ne suis pas écrivain, j'ai écrit comme je parle sans doute. On a dit il faut qu'on s'entoure de quelqu'un pour le faire, pour qu'il soit plus littéraire. Quoi, voilà.
Et alors, à qui vous faites appel?
On fait appel à Lydia Chabert, qui est écrivaine, et puis à d'autres personnes, comme Rachel, et puis d'autres personnes, parce que
Angeline.
J'ai pas dû corriger Angeline, pour corriger un petit peu, parce que voilà, il fallait s'entourer de professionnels. Quoi.
Des professionnels, alors Rachel que vous citez, c'est Rachel Magnien, ancienne salariée de Radio Royan-Vercors, qui est graphiste et qui vous a fait la mise en page de ce livre-là. Donc ce deuxième livre, c'est comme une synthèse un peu de ce gros pavé de 450 pages qui était au premier. Et est-ce qu'il ressemble mot pour mot à ce premier livre ou est-ce qu'il est un peu différent?
Non, alors il est un petit peu différent parce qu'on a dû enlever beaucoup d'histoires que je racontais, parce que vraiment, moi j'ai une mémoire quand même assez importante pour me rappeler de tout ça, parce que je détaillais vraiment toutes les choses dans l'autre livre. Voilà. Donc c'est pour ça que on a dû enlever quand même un petit peu des choses, quoi. Mais ça retrace quand même bien toute ma vie, quoi. Et je l'avais intitulé Des Rochats aux Rocheuses. Parce que les Rochats, c'est où je suis né, le hameau de la chapelle en Vercors. Et j'ai fini ce livre en 2002, aux Rocheuses, lors des Jeux paralympiques à Salt Lake City.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jeux paralympiques, Gérard?
Alors, je suis... D'abord, je fais beaucoup de ski de fond. J'ai fait la compétition, j'ai été entraîneur, tout ça. Et puis, un jour, je me suis trouvé guide de non-voyants. Et on a dû faire toutes les tournées mondiales avec une fille que je guidais et qui était à très bon niveau puisqu'elle a gagné des courses, voilà. Et on finit à Salt Lake City où elle se fait quand même deux médailles. C'est formidable.
Vous, en tant que guide de cette athlète-là?
Oui, c'est ça.
On peut peut-être la citer.
Ah bah oui.
Il s'agit de Fabienne Cassis.
C'est chose faite.
Aveugle de naissance.
Aveugle de naissance que vous guidez et qui fait une carrière olympique.
Guidé pendant plus de 20 ans.
Oui.
Et Odile, vous, vous êtes aussi au cœur de ce livre, dans le sens où vous accompagnez Gérard dans la promotion et puis peut-être dans l'écriture aussi. Quelle a été votre place un peu dans tout ce processus?
Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur la première version, puisqu'il y avait 7 cahiers de brouillon. Vous savez, les cahiers de brouillon d'Intermarché, 7, écrits partout, les marches comprises. Et donc, j'ai fait un document Word, tout ça, tout bêtement, et je faisais 450 pages. Donc là, ça a demandé, oui, beaucoup de... Ça m'a pris un an. Hein.
À taper les notes de Gérard.
Oui, un an. Donc, on l'a édité. pour la famille uniquement. Et c'est de là que, en le faisant lire à des amis, qu'est venue l'idée de le publier un peu plus largement.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, là-dedans, dans le fait de passer d'abord de cette mémoire à l'oral qui devient écrite et puis qui sort finalement dans le monde, en dehors de l'espace familial? Pourquoi est-ce que ça vous a touché particulièrement d'accompagner ce projet?
Moi aussi, je suis fille de paysanne, mais limousin, voilà. Mais c'est un peu la même galère. Des parents qui n'ont pas le sou, du travail, j'ai connu ça. Donc j'ai voulu l'accompagner parce que Gérard est quelqu'un qui ne se met jamais devant. Et je pense qu'il a une belle place. Il s'était mis à nu, écrire ses mémoires comme ça, c'est quand même se mettre à nu devant tout le monde. Et il a eu le courage de le faire. Moi, je pense que j'aurais pas pu. Donc il méritait d'être accompagné.
Donc c'est un travail d'équipe.
Oui, même a beaucoup aidé, parce que il y a des moments où moi j'abandonne un peu, et puis elle était là pour remettre le truc en route, quoi, voilà.
Une coach sportive un peu,
voilà. Voilà, un petit peu, oui.
Femme pas sportif comme Gérard, mais battante, on va dire.
Ne pas lâcher, parce que quand on commence à écrire ce projet-là, il y a quelque chose de créatif, il y a la mémoire qui revient, il y a des souvenirs, vous dites, oui. Vous donnez beaucoup de détails, et puis il faut tenir dans le temps, il faut aboutir,
oui.
Et donc il faut tenir.
En fait, ce livre, j'ai commencé à le taper il y a 9 ans. Alors, 9 ans de gestation.
C'est pas 9 mois, mais
c'est
9 ans.
C'est pas 9 mois, mais c'est 9 ans.
Et alors, Gérard, ce livre, c'est un dialogue avec la petite fille.
Voilà, c'est ça. Elle, pendant que j'écrivais, elle arrive en vélo à mon chalet et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, alors moi j'écris mes mémoires. Ah ben, elle me dit, papy, raconte-moi. Voilà, alors je lui ai raconté.
Et donc tout le dialogue, tout le fil narratif un peu de ce livre, c'est des questions qu'elle pose et vous y répondez.
Voilà, c'est ça. Je réponds à toutes les questions et puis voilà. Ça s'est enchaîné en fait. Hein.
Ça vous a aidé ça dans...
Ah, beaucoup, oui, bien sûr, bien sûr.
D'être
et puis
par ces
moi
questions.
J'ai une mémoire d'enfant exceptionnelle, quoi. Tout le monde me le dit, c'est pas moi qui le raconte, mais je me rappelle de tous les détails, de tout ce
jusqu'à
qu'on a fait.
Jusqu'à la météo.
Quel temps il faisait, ah oui, la tempête de neige pour ce premier jour de 49. Et vous disiez un peu hors micro juste avant que vous étiez un des derniers enfants placés dans le Vercors. Qu'est-ce que c'est des enfants placés?
Alors souvent pour décharger les familles, puisqu'on était une famille nombreuse de 7 enfants, et pour les décharger un petit peu, on les mettait dans les fermes. On les plaçait dans les fermes pour qu'ils aident à travailler la ferme. Et puis, ils allaient à l'école où ils se trouvaient, bien entendu. Donc, j'étais placé, j'avais 10 ans et demi, à peu près. Et puis, je suis resté 2 années dans cette ferme, où je me levais 6 heures du matin. On faisait le travail de l'écurie. Et ensuite, je partais à l'école. Et quand je revenais le soir, on refaisait le travail de l'écurie avant de faire ses devoirs. C'était comme ça avant.
Donc là, on est en 1959,
oui.
fin des années 50, début des années 60. Mmh. Vous avez 10 ans et vous êtes placé dans cette ferme.
C'est en 1960, hein, c'est, voilà, 10 ans et demi, ouais, c'est 1960-62, voilà.
Et donc, on fait travailler les enfants.
Oui, bon, c'était comme ça de partout. Pour nous, c'était pas... voilà, on voyait pas de différence. C'était normal. Voilà.
C'était normal. C'est la normalité, notamment des petits garçons.
Voilà. Mais bon, on était les derniers. Vraiment les derniers enfants.
Alors, les derniers, parce que après cette coutume s'est un peu arrêtée.
Oui, c'est-à-dire que, bon, le monde a changé. On sait, les paysans se sont mécanisés, tout ça. Et ils n'avaient plus besoin de ces enfants pour aider à la ferme. C'était plutôt les machines qui travaillaient, quoi. Voilà.
Et est-ce que vous avez gardé des liens avec les gens qui vous ont accueilli dans cette ferme? Est-ce que c'était des choses qui se passaient bien ou alors c'était un peu... bon, on exploitait les enfants, puis après...
Alors, il y avait deux choses différentes. Il y en a qui étaient un petit peu exploités. Moi, j'étais vraiment bien considéré. Et en plus, j'étais content parce qu'elle faisait bien à manger. Et comme moi, j'étais un petit peu... morphale sur les... voilà. J'adorais manger et j'ai pas trouvé ça très dur, en fait. Voilà. Malgré qu'il fallait se lever à 6 heures du matin.
Vous n'aviez pas un souvenir particulièrement difficile de
pas
cette période?
Tout, pas du tout. Si, le gros souvenir difficile, ça a été ma famille. J'ai énormément langui. Nangui, mes frères et sœurs, parce que nous, c'était une fratrie où on s'amusait beaucoup. On travaillait, mais on s'amusait. Et là, j'étais tout seul. Mmh. Et là, j'ai beaucoup langui.
Vous a manqué vos...
Mes frères et sœurs m'ont manqué, ça c'est sûr.
Et du coup, le reste de votre fratrie était aussi placé ?
Pas du tout, j'étais un des seuls. Bon, c'est comme ça, le hasard.
Le hasard. Les autres garçons de la fratrie n'ont pas été placés dans des fermes ?
Non, parce qu'ils aidaient à la ferme. Ils aidaient à la ferme familiale, quoi.
Familiale, pas vous.
Pas moi, bon, voilà. Moi, j'étais l'enfant à partir. Mon frère était un petit peu, de temps en temps, il est parti aider les paysans aussi. Mais juste l'été, pendant les vacances. Alors que moi, c'était toute l'année.
Et pendant ce temps-là, vous alliez à l'école, donc c'était l'école primaire de La Chapelle-en-Vercors ?
Non, c'était à Saint-Martin-en-Vercors.
À Saint-Martin-en-Vercors. Oui. Il y avait plusieurs écoles primaires sur le plateau ? Il y avait La Chapelle, il y avait Saint-Martin ?
Oui, bien sûr, il y en avait dans tous les villages. Il y avait des hameaux encore, les écoles de hameaux qui marchaient encore, hein, qui étaient ouvertes, bien sûr.
Et vous avez des souvenirs de cette école, de ce que vous y faisiez ?
Alors, à Saint-Martin, oui, bon, enfin, le plus, mon souvenir, c'est plutôt l'école de la Jarjate, parce que c'était juste au-dessous des Rochats. Et là, c'était un peu la guerre des boutons, quoi. Okay. C'était assez marrant.
Odile ?
Oui, il y a quelques épisodes cuisants qu'on retrouve dans le livre, pour certains, avec cette institutrice. Et puis, il y a quand même un fabuleux voyage à Monaco, aux quatre institutrices du plateau, donc la Jarjate, Écheville,
la Rivière
et Tourtre. Ces quatre jeunes institutrices ont décidé de faire un voyage scolaire à Monaco de 3 jours.
Et c'était exceptionnel un peu pour l'époque, ça ?
Ah, oui.
Oui, parce que nous, on n'était pas sortis de nos montagnes. Moi, le bout du monde, c'était ce que je regardais, je voyais de chez moi. Hein. Et non, c'était plus loin.
Ouais, d'ailleurs, quand le bus est arrivé au col du Rousset, il y avait une mer de nuages. Et il y a un des enfants qui a demandé à l'institutrice, c'est ça la mer ? Non, c'était fabuleux. Et cette histoire commençait, donc tu avais 8 ans ?
8 ans, oui.
On a essayé de retrouver ces institutrices. Il en reste une, de vivante. Et il y a 2 ans, on a remonté ces classes. Il manquait 2-3 élèves.
Voilà. Vous avez réuni tous les anciens
élèves.
Oui. Donc
1956.
En 1958.
58. Oui. Et on a retrouvé donc la seule institutrice qui avait fait des écrits et qui avait des photos.
Incroyable.
Et cette institutrice, elle est toute petite, un peu comme toi, en calibre. et j'ai une photo d'un gros bûcheron qui, à l'époque, il avait 10 ans, là, il avait 70 ans, et qui était à genoux et qui avait les mains sur les genoux de la maîtresse, et puis il lui disait, alors maîtresse? ces voyages. Alors, ce voyage a été fabuleux pour tous les enfants, je pense.
Donc, elle avait conservé des images et des écrits de cette époque.
Bien sûr. Oui. Nous, on a vu la mer, on avait 8 ans, alors que mes parents ne l'avaient jamais vue. Ça, c'est exceptionnel.
Donc, des enfants du Vercors qui sortent du plateau.
Ouais.
Et après, comment s'est passé le reste de votre vie ? Est-ce que vous avez fait beaucoup d'excursions ou de voyages en dehors du Vercors ? Ou vous êtes vraiment très attaché à la terre et vous y vivez toujours et vous y restez ?
Non, pas du tout, parce que moi, je mangeais la vie quand j'étais jeune. Hein. Je voulais faire comme les autres, je voulais aller plus loin et ainsi de suite. Et mon métier était donc entraîneur de ski de fond. D'abord moniteur, entraîneur, après guide de malvoyants. Et j'ai dû faire les tournées mondiales. Donc, je partais dans tous les pays, effectivement, pour faire du ski de fond, quoi, courir.
Une grande ouverture par rapport à l'enfance, un peu peut-être plus excentrée sur...
Et un autre détail aussi que tu oublies de dire, c'est que ça, c'était pour la partie hivernale de ta vie. Mais en été, tu étais quand même muletier. Il avait une boîte de trekking avec 100 portages avec les mules. Et donc, guide accompagnateur. Et tu avais...
Des mules pour porter les bagages. Voilà.
Et sur tous les massifs.
Et je faisais des treks d'une semaine.
Sur tous les massifs
en France.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire, c'est peut-être une question difficile, mais en comparaison entre la vie dans le Vercors à votre enfance, donc les années 50, et la vie aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous soulignez ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus ?
Oh, pas grand-chose, beaucoup de choses. parce que, bon, nous, on vivait d'abord parce que nos parents n'avaient pas d'argent. C'est surtout ça. Donc, on travaillait. Dès qu'on pouvait marcher et tenir un bâton, on gardait les vaches. On avait 5 ans, 6 ans. Et on a travaillé jusqu'à 14 ans, jusqu'au certificat d'études, on travaillait, quoi, voilà. Mmh. Après, on est parti parce qu'on nous disait, il faut que tu apprennes un métier. Bon, ben maintenant, tu pars de la ferme, quoi. Voilà.
Donc une vie qui est plus rythmée par le travail,
voilà.
Dominée par le travail.
Dominée par le travail.
Notamment dans les classes populaires et paysannes.
Oui.
Ça, c'est peut-être différent aujourd'hui, effectivement.
Ben oui, parce que les enfants, maintenant, ils sont quand même beaucoup chouchoutés.
Hein. T'entends, Fabiola, t'es d'accord ? Pas trop. Et quelles ont été la réaction de votre famille à la lecture de vos mémoires ? Parce que bon, il y a l'entretien avec la petite fille, puis votre fratrie, vous avez beaucoup de frères et sœurs.
Oui.
Est-ce que ils sont tous encore en vie ? Est-ce qu'ils ont pu lire le livre ? Et puis oui, quelle réception ?
Alors il en manque deux, mais oui, ils ont trouvé ça super qu'on parle de la famille d'abord. Mais je l'ai fait surtout pour mon petit frère ce livre parce que. Nous, on est restés je suis resté au Rocher jusqu'à l'âge de 10 ans. Et mon petit frère, il avait qu'un an et demi. Donc, il n'a pas connu les Rochers. Et je voulais qu'il sache comment on a vécu au Rocher, quoi. Voilà. Et lui, il a vécu sur Saint-Nizier, mais plus on était déjà motorisés, on avait tout ce qu'il fallait à la ferme. Donc, c'était déjà différent. Voilà.
Donc, c'était comme lui donner un aperçu de ce qu'il n'a pas vécu lui, alors,
voilà.
Même s'il faisait partie de votre fratrie.
Et oui, parce que nous, on travaillait sur les Rochers, donc la chapelle en Vercors. On travaillait avec les vaches, les chevaux, tout ça. Et, quand on est arrivé à Saint-Dizier, c'était les tracteurs, c'était déjà les premiers tracteurs et tout ça, quoi. Donc, c'était une autre façon de travailler.
Et puis, j'imagine aussi le rapport à l'argent. Vous disiez que vous n'aviez pas beaucoup d'argent. C'était encore en francs, évidemment.
C'était après la guerre.
L'ambiance était à la reconstruction, à la survie, presque.
Eh oui, bien sûr. Mmh. Mais bon, on n'en a pas été malheureux parce qu'on a toujours mangé à notre faim. On travaillait, mais on a toujours mangé à notre faim. Et puis, il y avait une chaleur dans cette famille exceptionnelle, quoi.
Ouais.
J'avais des parents qui étaient aimants et tout ça, quoi. Malgré les petites
difficultés,
voilà.
Est-ce que ça, c'est différent de d'autres, je sais pas, des camarades de classe, où vous avez l'impression que cette chaleur-là dans cette famille est différente d'ailleurs ?
Alors, oui, quoi qu'avant, bon, on se serrait beaucoup les coudes hein, par rapport à maintenant dans les familles où on vit un petit peu tous les uns par rapport aux autres sans se voir. Nous, avant, on s'aidait entre nous, hein, entre voisins et tout ça, quoi. Mmh. Voilà.
Oui, et puis les gens n'allaient pas très loin, peut-être.
Alors, la chaleur et la solidarité qu'il y avait à cette période n'existent quasiment plus, quoi. Enfin, de moins en moins.
Hmm.
Je l'ai retrouvé cette année.
Alors ?
On a fait le Maroc, et j'ai retrouvé ça au Maroc. Je me suis revu 70 ans en arrière.
Ah oui.
Je parle dans les pays, pas les grosses
villages.
Villes, mais les petits villages.
Un mode de vie que vous avez retrouvé là-bas.
Qu'on a retrouvé là-bas. Avec la générosité et tout.
Et je me demandais, quand on écrit ses mémoires comme ça, c'était une volonté de votre part de transmettre, mais voilà, aussi avec une valeur patrimoniale, donc c'est-à-dire de cette petite histoire qui alimente la grande, comme on dit. Qu'est-ce que ça fait quand on se retourne comme ça sur son passé et qu'on voit ce fil rouge se tisser dans un ouvrage et voilà, qui a un objet qu'on peut proposer aux autres, dont on peut parler? Qu'est-ce que ça vous fait?
Alors, moi, d'abord, au début, quand j'ai commencé à écrire, c'était très dur. Ça a été très dur pour moi. Il fallait que je me mette à nu. Il fallait que je parle de ma famille. Ça a été dur. Puis, petit à petit, c'est venu. Et voilà, le livre s'est fait. Le récit s'est fait. Voilà.
Même si c'était dur, vous aviez la volonté de ça. Vous aviez quand même envie.
Oui. Mais j'ai toujours été un peu écrivain, poète, chanteur, tout ça. Oui,
musicien.
Musicien, oui.
Ça fait partie aussi de vous, quoi.
Ça fait partie de moi, je crois. Je mangeais la vie, comme je dis.
Dans ce livre, vous avez fait le choix aussi de mettre des photos.
Oui.
D'ailleurs, j'en vois des croisements de voitures dans Combes-Laval un peu vertigineuses, ou alors des sorties là, de déneigement et puis de ski et de luge, tout ça. C'est des photos qui viennent d'où vient ce patrimoine d'images ?
Oui, alors ces photos, bon, elles retracent quand même ma vie, parce qu'on voit d'abord des chevaux qui tirent un traîneau pour faire la trace. Hein. Voilà, donc on avait des chevaux qui arrivaient à la maison faire la trace. Il y avait 5-6 chevaux attelés, voire 8, les uns derrière les autres pour tirer le traîneau. Déjà ça. Après, les voitures dans les Grands Goulets, ben, je suis né au-dessus des Grands Goulets. Et quand on gardait les vaches dans une clairière au bord des Grands Goulets, nous, notre passion, c'était de regarder les voitures qui passaient dans ces gorges très étroites. Et on faisait des paris en disant, ah ben tiens, il y a deux voitures qui arrivent en sens inverse, laquelle c'est qui va reculer, quoi. Alors, on faisait des paris, quoi, comme ça, avec les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on trouve la photo de...
Voilà, en fait, elles sont souvent... Moi, je les ai trouvées chez des anciens. Il y en a une qui est quand même inédite dans le lot. C'est la photo de la cabane de Malatra. Et enfin, j'en parle particulièrement. Elle vient de Saint-Jean. Je l'ai récupérée dans une famille à Saint-Jean. Et cette photo, en fait, la famille de Gérard est partie faire une coupe de bois à Malatra. Donc, de Saint-Martin... à Malatra, c'est vers Ambel. Ça fait déjà une trotte. Ils sont partis avec le cheval de l'oncle Paul et le char. Et sur le char, il y avait le cochon, il y avait les lapins, les poules, les oies, enfin tout ça. Il y avait le papa, il y avait la maman et il y avait trois enfants. Voilà.
Les trois aînés.
Et ils sont allés à Malatra. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez Malatra. Il reste le grand bassin. Donc ce grand bassin, bon, bah, je le connaissais. Je dis, mais comment ça se fait? Il n'y avait pas de cabane. Et en fait, il n'y avait pas une cabane, mais il y avait 7 ou 8 cabanes. Et il y avait même une vogue là-bas à Malatra. Et j'ai dit, il faut trouver une photo de cette cabane. Donc j'ai trouvé la photo de la cabane de Malatra qui a été détruite. Et donc, sachant qu'au retour, à l'automne, donc ils sont repartis avec le cheval de l'oncle Paul, ils sont repartis avec la charrette, il y avait plus le cochon, il l'avait mangé. Il y avait encore les poules, quelques oies, il y avait le papa, il y avait la maman, il y avait les trois frères, et dans le ventre de la maman, il y avait Gérard. Et c'est là que tout a commencé, finalement.
Belle histoire. Enfant du Vercors, c'est donc le livre Confidence, avec un S. C'est donc le livre de Gérard Blanc, avec la collaboration de Lydia Chabert-Dalix, cette autrice qui vous a accompagné pour rendre cette forme de récit de vie plus littéraire. Vous partez en tournée pour le présenter, Odile et Gérard. Il y a plusieurs dates, là.
Oui.
Oui.
Alors
le 14, donc samedi 14 à Saint-Martin-en-Vercors, à La Grange.
À 15h.
Le lundi 16 à Saint-Nizier-du-Moucherotte à la bibliothèque à 16h. Après, le 21 à la Chapelle-en-Vercors, à la librairie au Café littéraire. Et puis enfin, à Villard-de-Lans, donc le 27 à la Maison du patrimoine.
Une belle petite tournée dans le Vercors pour faire connaître votre livre. Est-ce que vous imaginez rencontrer des gens qui pourraient être aussi dans une volonté d'écrire leur mémoire, et peut-être ça peut leur donner envie?
Moi, j'espère. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, des gens de mon âge, hein, peut-être, qui vont se reconnaître dans ce que j'écris. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Royan ce matin.
Merci.
Longue vie à ce livre, et puis j'espère qu'il rencontrera son public.
On espère.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.